Vous écoutez On lit pour vous.
Les fruits et légumes bio auraient des bienfaits modestes pour la santé. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 3 juillet 2026 dans Le Devoir. Les fruits et légumes biologiques semblent avoir des bienfaits modestes pour la santé. Mais, en fin de compte, il demeure préférable de consommer des fruits et légumes conventionnels que de ne pas en manger du tout, conclut un texte récemment mis en ligne par l'Observatoire de la prévention de l'Institut de cardiologie de Montréal. Les fruits et légumes biologiques, on le sait bien, sont en effet plus dispendieux que les produits conventionnels, ce qui pourra les placer hors de la portée de certains consommateurs, a rappelé l'auteur du texte, le professeur Éric Thorin, qui est notamment chercheur au Centre de recherche de l'ICM. Si vous avez l'occasion de manger bio, faites-le, ça c'est sûr, a-t-il dit. Mais surtout, mangez des fruits et légumes parce que ça, on sait depuis tellement longtemps maintenant que c'est un bénéfice pour la santé qu'il n'y a même plus à se poser de questions. Deux études publiées au cours des dernières années indiquent que la consommation de fruits et légumes biologiques pourrait être bénéfique pour la santé, mais on ne dispose pas encore de preuves scientifiques définitives à cet effet. La première étude a été réalisée par des chercheurs danois qui ont réparti leurs sujets en quatre catégories, allant de jamais à toujours, selon leur consommation de produits biologiques. Chaque passage d'une catégorie à la suivante, par exemple de presque toujours à toujours, a été associé à une baisse légère, mais statistiquement significative de 6% du taux d'incidence de maladies cardiovasculaires liées à la présence de plaques d'athérome, peut-on lire sur le site de l'Observatoire. C'est quand même intéressant sur le long terme, a dit le professeur Thorin au sujet de cette réduction de 6% qui peut paraître modeste. On fait souvent l'analogie à la pression artérielle. On dit qu'une baisse de même 5 mm de mercure de pression artérielle est suffisante pour réduire le risque de manière très significative. Donc, ça paraît rien, 5 mm de mercure, mais l'impact est majeur. La deuxième étude a été réalisée auprès de quelque 54 000 participants de la cohorte française Nutrinet Santé. On avait alors observé, et de manière inexpliquée seulement chez les hommes, que les consommateurs de produits biologiques abaissaient le risque de diabète de type 2, d'hypertension et de maladies cardiovasculaires comparativement à ceux qui n'en consommaient jamais. Ce sont probablement les deux premières grosses études qui sont confirmatoires, qui montrent qu'il y aurait un bien potentiel à consommer biologique, a dit M. Thorin. Ce sont quand même des données qui sont nouvelles parce que ça n'avait jamais été fait d'une manière aussi systématique et aussi bien contrôlée. On ne peut toutefois pas conclure que cette protection était attribuable aux aliments biologiques, puisque ceux qui en consomment se distinguent fréquemment du commun des mortels à plusieurs niveaux. Ils sont plus jeunes et plus actifs physiquement, ils n'ont jamais fumé, ils présentent un poids corporel normal, ils s'alimentent mieux, autant de facteurs qui peuvent réduire leur risque de troubles métaboliques. Les deux études le remontrent, que ce soit la danoise ou la française, il y a une sélection, c'est-à-dire que ceux qui consomment biologique sont plus jeunes, souvent des femmes par exemple, niveau d'éducation plus élevé, ils sont plus actifs, ils ont un poids corporel normal selon les normes médicales, puis ils suivent un régime alimentaire qui est globalement équilibré, a souligné M. Thorin. Donc, si on combine tout ça, a-t-il poursuivi, c'est sûr que, de toute façon, si on oublie le bio, ces personnes-là vont être en meilleure condition physique et en meilleure santé. Le professeur Thorin rappelle, dans le texte mis en ligne par l'Observatoire de la protection, que certaines études montrent que les personnes qui ne consomment jamais de fruits et de légumes ont un risque de mortalité prématurée de 53% plus élevé et vivent 3 ans de moins que celles qui en mangent au moins 5 portions par jour. Le plus important demeure donc de consommer une grande variété de végétaux, qu'ils proviennent de l'agriculture biologique ou conventionnelle, écrit-il. Cela étant dit, les consommateurs de fruits et légumes conventionnels seront inévitablement exposés à de plus grandes quantités de pesticides, mais il n'est pas évident qu'on doive s'en inquiéter outre mesure. Si d'un côté, des études démontrent que la consommation d'aliments biologiques réduit d'environ 30 % l'exposition aux métabolites des pesticides de synthèse, de l'autre, les études qui ont comparé les effets d'une alimentation basée sur les produits bio n'observent pas de différence de risque de cancer comparativement aux produits conventionnels. On pourrait possiblement comparer la situation à celle de ceux qui courent ou font du vélo en ville. Bien que leur activité les expose à des niveaux de pollution plus élevés, les bienfaits de l'activité physique sur leur santé demeurent nettement supérieurs à l'impact négatif de cette exposition plus importante. Dans l'état actuel des connaissances, indique le texte de l'Observatoire, il ne semble pas que la réduction des résidus de pesticides entraînés par l'alimentation biologique puisse avoir une pertinence clinique mesurable. Le plus important, écrit M. Thorin, est donc d'augmenter l'apport en végétaux, qu'ils soient bio ou non, et de limiter celui des aliments industriels ultra-transformés, dont on sait qu'ils peuvent avoir de multiples effets néfastes sur la santé. Le message, ça devrait être que le plus important, c'est d'essayer de prendre soin de vous, puis prendre soin de soi. C'est bien manger, faire un peu d'activité et aussi d'essayer de gérer son stress, a-t-il conclu. C'était « Les fruits et légumes bio auraient des bienfaits modestes pour la santé », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 3 juillet 2026 dans Le Devoir.
Les meilleurs aliments pour prévenir l'inflammation chronique. Un texte d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru le 19 juin 2026 dans Bel Âge. Souvent silencieuse, l'inflammation chronique de bas grade est aujourd'hui reconnue comme un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies chroniques. Outre les médicaments, le mode de vie et l'alimentation jouent un rôle central dans sa prévention et sa gestion. Quels aliments privilégier? Isabelle Huot vous dit tout. L'inflammation de bas grade est une réponse naturelle du système immunitaire face à des pathogènes, bactéries, virus, etc., ou à une blessure. Cette inflammation aiguë s'estompe progressivement lors du processus de guérison. Or, il arrive que l'inflammation persiste et cause des dommages aux cellules saines de l'organisme. Les professionnels de la santé parlent alors d'inflammation chronique. Cette réaction s'observe avec certaines maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn, le diabète de type 1 et la polyarthrite rhumatoïde. D'autres causes possibles. De mauvaises habitudes de vie peuvent aussi favoriser une inflammation chronique de bas grade. Une alimentation déséquilibrée, la consommation excessive d'alcool, la prise de poids, la sédentarité, le stress chronique ou encore le tabagisme figurent parmi les principaux facteurs. Cette inflammation silencieuse évolue lentement et passe souvent inaperçue. Lorsqu'elle se manifeste, elle peut entraîner une fatigue persistante, des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles digestifs, voire une prise de poids. Ces symptômes peuvent être continus ou apparaître par épisode. À long terme, l'inflammation chronique de bas grade pourrait contribuer au développement d'autres maladies, telles que l'anxiété, certains cancers, la dépression, le diabète de type 2, la maladie d'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Des changements au niveau du mode de vie, dont l'alimentation, peuvent aider à la prévenir et à la combattre. Les aliments anti-inflammatoires. Les produits qui composent la diète méditerranéenne sont de bons exemples. Les fruits et les légumes sont riches en antioxydants. Exemple, caroténoïdes, flavonoïdes, vitamine C, etc. Ces derniers peuvent contribuer à prévenir, retarder ou réparer certains dommages cellulaires atténuant l'inflammation. Parmi les fruits et légumes les plus riches en antioxydants, nommons les petits fruits, bleuets, fraises, etc. Les pommes, les agrumes, oranges, citrons, etc. Les tomates et les légumes à feuilles vertes, choux verts, frisés, épinards, etc. Les grains entiers et les légumineuses sont reconnus pour leur teneur riche en fibres. Certaines d'entre elles sont utilisées pour les bonnes bactéries du microbiote intestinal pour produire des acides gras à chaîne courte, ce qui pourrait contribuer à réduire l'inflammation. L'avoine, l'orge mondée, le pain intégral et le riz sauvage sont des exemples de grains entiers. Les pois chiches, les haricots blancs et les lentilles vertes font partie des légumineuses. Les poissons gras sont riches en oméga 3. Ces acides gras polyinsaturés sont impliqués dans la régulation de l'inflammation dans l'organisme. Le maquereau, la sardine, le saumon et la truite sont de bons choix. On trouve également des oméga 3 dans certaines noix et graines, telles que les noix de Grenoble et les graines de lin. Les probiotiques et les prébiotiques qui modulent la composition du microbiote sont importants pour la régulation de l'inflammation. Un intestin en dysbiose, en déséquilibre, est une des causes principales des processus inflammatoires. L'huile d'olive est riche en gras monoinsaturés. Les matières grasses insaturées sont considérées comme anti-inflammatoires. D'autres bonnes sources de gras monoinsaturés incluent les amandes et les avocats. Mollo sur le gâteau. Les aliments pro-inflammatoires existent bel et bien, d'où la nécessité de réduire leur consommation afin de miser sur la santé globale. Pas le choix. Il faut pointer du doigt les aliments hautement transformés, riches en gras saturés, en sel et en sucre. Croustilles, desserts glacés, repas surgelés, sauces, sucreries, etc. Mais aussi les mets frits, beignets, croquettes, frites, etc. Les boissons sucrées, les glucides raffinés, biscuits, céréales, pain blanc, riz blanc, etc. Et les viandes rouges ou transformées, riches en gras saturés, qui peuvent favoriser la formation de substances pro-inflammatoires. Charcuterie et saucisses, à manger avec modération. 5 recettes pour aider à réduire l'inflammation. Voir les recettes au lien lebelage.ca/recettes. Orgeto, tomate et basilic. Une variation sur le thème du risotto, cette fois réalisée avec de l'orge, une céréale à haute teneur en fibres. Truite aux tomates mi-confites, ail et épices méditerranéennes. Une recette de semaine idéale qui marie à merveille les saveurs méditerranéennes à la truite locale. Bol burrito aux 5 grains, poulet et oignons marinés. En plus d'être très complet sur le plan nutritionnel, les bols repas peuvent être réinventés à l'infini. Dans cette recette, on combine poulet, pois chiches et saveurs mexicaines. Filet d'aigle fin rôti au paprika, citron et quinoa. On redécouvre le poisson blanc grâce à cette recette tout en fraîcheur. Pudding de chia à la noix de coco et mangue. Un pudding santé réalisé à base de chia, un super aliment nutritif riche en fibres, en protéines et en oméga 3, qui favorise la satiété, une bonne digestion et la santé cardiovasculaire. C'était les meilleurs aliments pour prévenir l'inflammation chronique. Un texte d'Isabelle Huot, docteur en nutrition, paru le 19 juin 2026 dans Bel Âge. Annie-Claude Thériault, Les tragédies douces. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Après la publication de trois romans remarqués, Annie-Claude Thériault s'attelle à la nouvelle avec le recueil Les disparitions chez Marchand de Feuilles. Cette histoire, empreinte de spleen, parfois même de tragédie, où filtre cependant une certaine tendresse, sans jamais pour autant basculer dans la mièvrerie. C'est un art de savoir pratiquer la forme brève en déployant la grandeur. L'autrice s'y emploie depuis longtemps, elle qui a reçu le prix de la nouvelle Radio-Canada en 2015. Dans son plus récent livre, les îles sont à l'honneur, nous offrant des espaces où le temps se dilate, l'âme prend de l'ampleur, l'horizon toujours à portée de vue. Un après-midi ensoleillé, dans un pub du plateau Mont-Royal, la lumière se laisse partiellement inviter, tamisée par l'immeuble encoigné dans une petite rue montréalaise retirée qui participe grandement à son charme. À l'instar du livre « Les disparitions », l'ambiance est à la fois nimbée d'ombre et de clarté, parfaite pour accueillir les confidences d'une autrice sur son travail d'écriture, dont l'aboutissement nous mène à tenir entre les mains un recueil où l'insularité, davantage qu'une contrée où se poser, s'érige en autant de vies connues pour la profondeur de ses vertiges. La nouvelle permet de jouer beaucoup avec la construction des idées, plus que dans un roman où tu as une seule grande construction. Des récits tous reliés, cependant, par l'air salin, soufflés par des vents parfois contraires. Plein de lueurs. Dans La coccinelle, il ne se passe presque rien, mais on sent la menace s'immiscer tout au long. Les nouvelles du monde sont mauvaises, et même l'île de Grand Manan ne semble plus pour Willa constituer un rempart tranquille contre ce qui se trame. C'est Christian Gay-Poliquin, dans « Le poids de la neige », qui disait, quand il ne se passe rien, « On dirait que tout peut se passer ». C'était aussi un peu ça. C'était comme de reprendre cette lenteur-là. Résolument confiante en l'humanité, Annie-Claude Thériault a l'optimisme tenace. Celle qui enseigne la philosophie au collège Montmorency prêche pour la nuance lorsqu'il s'agit de nommer les catastrophes qui nous occupent. Oui, ça va mal. Oui, il y a des villages qui ferment. Oui, les changements climatiques. Oui, Trump est au pouvoir. Mais reste à nous d'être là et de donner sens au monde. Dans « Attends-moi », Salomé cherche l'éloignement. Mais plutôt que d'accéder à une retraite bienfaitrice au Svalbard, en Norvège, elle sombre de plus en plus. Sa mère,
qui écrit des lettres pour se rapprocher de son enfant déraciné au bout du monde, tente de comprendre sa détresse jamais endiguée. En parlant des bernaches nonnettes, perchées sur les plateaux de la toundra, elle demande « Qu'est-ce qu'elles font là, alors, sur une île qui les isole encore plus? » Ce qui renvoie en écho la question à sa fille. Une île peut parfois être un endroit idyllique, emprunté à un certain paradis perdu, mais aussi une zone hostile, d'où on ne peut même pas échapper à soi. C'est comme si l'île était un écho de sa solitude. C'est vraiment un miroir de son état d'isolement, du sentiment que le monde ne la comprend pas, qu'elle n'a pas sa place. Être seule sur son île, c'est, comme le dit l'expression consacrée, libre, mais seul. La petite Billy regarde Aylmer Sound brûler. Dans La dernière tarte, une communauté voit se concrétiser la fermeture de leur village. L'espace où l'on habite n'est pas qu'un point géographique sur une carte. Il contient tous les souvenirs et les liens qu'on a créés, fait partie de l'identité même des gens. C'est la tragédie des immigrants. Je pense aux Irlandais qui ont été si exilés à travers le monde, la déportation des Acadiens, ce que vivent les gens en guerre en ce moment. Tu sais, mine de rien, tu remontes à une génération. Et tu ne sais même plus d'où tu viens. Tu n'as pas de lieu. Tu n'as pas de territoire. Tu n'as pas d'imaginaire collectif. Originaire d'un non-lieu, être sans exister réellement. Dans Private Property, deux amis partent séjourner en canot-camping au lac à la loutre. Elles devront conjuguer avec leurs peurs les plus intimes les ombres, les bruits, les ours. Est évoqué dans cette nouvelle ce que les femmes doivent se réapproprier, ce qu'on ne leur a jamais appris, c'est-à-dire leur autonomie, leur force, leur capacité. Oh! Une fille? Et le ton dit tout. Il dit qu'on s'inquiète pour elle, pour son futur, pour son estime de soi, parce qu'elle pourra tomber enceinte, parce qu'elle pourra être agressée. Cette peur originelle qui taraude les femmes toute leur vie durant, comment la transcender alors même que les périls sont réels? C'est vraiment une nouvelle sur la condition des femmes. Qu'est-ce qu'on nous a appris à être aussi? Je suis prof, et dans mes classes, les filles sont tellement disciplinées. Elles prennent des notes, elles écoutent les consignes. Puis les garçons à côté sont plus dissipés, mais en même temps plus créatifs aussi. Quand je leur dis... Faites trois paragraphes. Du coup, ils en font quatre. C'est quoi cette éducation-là qu'on donne à nos filles? La crainte ne disparaît pas, mais la témérité de marcher la tête haute peut aider à tracer le chemin. Étreindre l'imprévisible. C'est toujours un peu comme ça sur une île. L'impondérable. Dans « Et c'est ça qu'il restera », la vulnérabilité de l'humain confronté aux éléments en fait aussi sa force, car en mesurant l'imprédictible, il fait corps avec sa nature profonde et son environnement. L'île est un paradoxe. Quand tu acceptes que, regarde, ça se peut que le traversier ne parte pas un matin, ben, c'est parfait. Là, tu arrêtes d'être en lutte. Et là, la vie devient comme soudainement plus légère. Dans la dernière nouvelle, Retrouver Bill, la narratrice ne regarde plus l'horizon comme tout insulaire. Elle n'a Dieu que pour sa vengeance. Quand elle revoit Bill, elle constate que la vie s'est elle-même chargée de la conscience de l'homme. Mais il a fallu 20 ans et ce voyage à Dingle, en Irlande, pour qu'elle puisse faire la paix avec la mort de sa mère. Le temps, la mémoire travestissent les vraies émotions. Tout à coup, quelqu'un nous raconte ce qui s'est vraiment passé et on se rend compte que ça fait 10 ans qu'on entretient notre souvenir. Peuplé de personnages marqués, graves, éprouvés, le recueil demeure serti d'une douceur placée précisément au cœur des êtres qui le composent, comme si le refuge se trouvait plus près que ce que l'on pense. La mort qui s'immisce dans certaines nouvelles ne réussit pas à détruire l'intensité des liens vécus. La mort, c'est tellement quelque chose de tragique, mais en même temps, c'est tellement beau d'avoir pu aimer quelqu'un au point qu'il nous manque quand il n'est plus là. C'est dans l'entre-deux, ou plutôt dans l'amalgame des émotions, dans leur complexité multidimensionnelle, que réside la véritable posture des choses pour Annie-Claude Thériault. La beauté seule me paraît presque difficile de dire l'écrivaine, y trouvant une lumière quasi aveuglante. Encore une fois, dans la nuance, elle préfère la mélancolie, plus teintée, moins directe. J'aime ça dire ça de même, mais j'ai le beau triste. C'était Annie-Claude Thériault, Les tragédies douces. Une entrevue réalisée par Isabelle Beaulieu, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.